6. Notre trajet en arc de cercle nous conduisit à proximité de l'étang entouré d'une couronne de palmiers dont les feuilles pendaient mollement sous la pluie. J'apercevais l'espèce de totem au centre du cadran solaire, mais il n'était plus surmonté du soleil. Après le voyage effectué par radar sur le cadran, le soleil regardait de l'autre côté maintenant. Il avait été remplacé par les deux lunes d'Empis, dotées, elles aussi, de visages et d'yeux mobiles, qui se regardaient, comme s'ils estimaient la distance qui les séparait encore. J'avisais le dernier repère laissé par M. Boditch, celui dont la flèche partait de la pointe du A pour indiquer le cadran solaire droit devant, et l'étang. Je me retournai vers mon petit groupe. « Princesse Léa, venez avec moi, je vous prie. Vous autres, attendez que je vous appelle. » Je me penchai vers Radar. « Toi aussi, Fifi, ne bouge pas. » Là encore, il n'y eut ni question ni protestation. Léa marchait à ma hauteur. Je la conduisis jusqu'à l'étang et lui fis signe de regarder. Elle découvrit ce qui restait de la sirène gisant dans une eau souillée par la décomposition. Elle découvrit la lance qui saillait du flanc d'Elsa et la spirale des intestins qui s'en échappait. Léa émit un gémissement étouffé qui aurait été un hurlement si elle avait pu l'exprimer. Elle plaqua ses mains sur ses yeux et se laissa tomber sur un des bancs où les Empissariens, venus de leur ville et de leur village, s'asseyaient peut-être jadis pour s'émerveiller de la beauté de la créature qui nageait dans l'étang et l'écouter chanter peut-être. Elle se pencha en avant et continua à émettre ces grognements sourds qui, à mes oreilles, étaient plus terribles, plus déchirants, que l'auraient été de véritables sanglots. Je posai ma main dans son dos, craignant soudain que cette impossibilité d'exprimer pleinement sa douleur finisse par la tuer, comme une personne malchanceuse meurt étouffée par un aliment coincé dans sa gorge. Finalement, elle redressa la tête, contempla de nouveau la dépouille grise d'Elsa, puis leva les yeux vers le ciel. La pluie et les larmes coulaient sur ses joues lisses, sur la cicatrice de sa bouche et la petite lésion rouge qu'elle devait masser pour l'écarter afin de se nourrir malgré la souffrance que cela impliquait. Mais elle brandit les poings en direction des cieux. Je pris ses mains dans les miennes, délicatement. C'était comme tenir deux pierres. Enfin, elle desserra les poings. J'attendis qu'elle me regarde. Flight Killer l'a assassinée. S'il ne l'a pas tuée de ses propres mains, il en a donné l'ordre. Parce qu'elle était belle, et la force qui le gouverne déteste toute forme de beauté. Les monarques, les êtres bons comme Dora, qui étaient autrefois des gens saints, et l'ensemble de ce royaume sur lequel vous devez régner. Ce qu'il aime, c'est la violence, la souffrance et le meurtre. Il aime le gris. Quand on le retrouvera, si on le retrouve, le tuerez-vous au cas où j'échouerais ? Elle me regarda d'un air perplexe, les yeux mouillés de larmes, puis elle hocha la tête. « Même si c'est Eldon ? » demandai-je. Cette fois, elle secoua la tête avec la même force que précédemment et libéra ses mains. Et de l'étang où gisait la sirène morte, s'éleva la voix projetée de Léa, éplorée et tremblante.
« Jamais il n'aurait tué Elsa. Il était amoureux d'elle. »
« Ce n'est pas vraiment un non, » songeai-je. Le temps passait. Il restait encore quelques heures de jour, mais j'ignorais si les lunes devaient s'embrasser au-dessus d'Empis afin que le puits obscur s'ouvre. Pour ce que j'en savais, elles pouvaient très bien passer de l'autre côté du monde avec les mêmes conséquences effroyables. Au sommet du poteau planté au centre du cadran solaire, les yeux de Bella et d'Arabella allaient de droite à gauche, tic-tac, tic-tac, comme pour souligner cette idée. Je me retournais et appelais les autres. 7. On contourna tous le cadran solaire, à une exception près. Radar le traversa et s'y arrêta, juste le temps de pisser à côté du poteau central. Un geste qui me rappela Eris et la géante morte. Les chemins en moulin à vent se rejoignaient dans la vaste allée principale qui s'achevait devant les 7 portes. J'essayais celle du milieu, verrouillée. Je lui ordonnais de s'ouvrir au nom de Léa des Galiens, version empissarienne du « Sésame, ouvre-toi », et elle obéit. Sans surprise. En revanche, il se produisit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Le palais, dans sa totalité, sembla reculer en entendant le nom de la princesse. Je le sentis plus que je le vis, comme j'avais senti les vibrations sous mes pieds lorsque le poids mort, au sens propre, des 300 kilos de Anna avait heurté le sol. L'enchevêtrement de murmures, perceptible moins par les oreilles que par le centre du cerveau, se tut brusquement. Je n'étais pas assez bête pour penser que tout le palais avait été nettoyé, exorcisé, avais-je dit à Ayota, mais il me semblait que tout le pouvoir n'appartenait pas au seul Flight Killer. Ce pouvoir serait plus fort si elle pouvait s'exprimer par sa propre bouche, songeais-je. Mais évidemment, ce n'était pas possible. Les portes s'ouvraient sur un immense hall, décoré jadis, à l'image du dépôt du tramway, d'une vaste fresque circulaire. Cette fresque était maculée de projections de peinture noire. Seuls quelques monarques en vol subsistaient tout là-haut, près du plafond. Une fois de plus, je pensais aux fanatiques de Daesh qui détruisaient les artefacts culturels des civilisations qui les avaient précédées. Au centre du hall se dressaient plusieurs guichets peints en rouge qui n'étaient pas sans rappeler ceux devant lesquels j'étais souvent passé avec mon père, au Guaranteed Rate Field, le stade où on allait voir jouer les White Sox à Chicago. « Je sais où on est !» me glissa Ayota. Il leva le doigt. « Attends, Charlie, une minute !» Il gravit d'un pas lourd une des rampes d'accès, regarda autour de lui et redescendit en courant. « Les gradins sont vides, le terrain aussi. Ils ont tous fichu le camp, même les corps !» Léa lui jeta un regard agacé qui semblait demander « Qu'est-ce que tu espérais ?» Elle nous entraîna vers la gauche. On suivit une allée circulaire qui passait devant un certain nombre de boxes fermées, sans doute des loges privées. Radar marchait à ma hauteur. En cas de danger, je me disais qu'elle le sentirait avant nous. Pour l'instant, elle paraissait vigilante, mais calme. Juste après le dernier box, je m'arrêtais pour regarder ce qui se trouvait devant moi. Les autres en firent autant. Seule Léa semblait indifférente à cette chose qui me stupéfiait. Et elle continua à avancer, avant de s'apercevoir que personne ne la suivait. Elle refit ce petit geste circulaire de la main, vite, mais on était tous figés. À cet endroit, le mur de pierre avait été remplacé par un panneau de verre incurvé d'au moins 10 mètres de long. Comme tout le palais, il était poussiéreux, mais on voyait encore ce qu'il y avait à l'intérieur, éclairé par un alignement de brûleurs à gaz capuchonnés faisant office de projecteur. Je contemplais un caveau qui renfermait plusieurs tas de pépites d'or semblables à celles que j'avais découvertes dans le coffre de Monsieur Boditch. Il y en avait pour des milliards de dollars. Éparpillés au milieu des pépites, j'apercevais des pierres précieuses, opales, émeraudes, diamants, rubis, saphirs. Monsieur Heinrich, le vieux joaillier boiteux, en aurait fait une crise cardiaque. La vache ! Murmurai-je. Iris, Jaya et Ayota regardaient ça avec intérêt, sans être estomaqués.
« J'ai entendu parler de ce truc, » dit Ayota. « C'est le trésor, hein, madame ? Le trésor d'Empis ?»
Le hochement de tête de Léa trahissait son impatience. Elle nous fit signe d'avancer. Elle avait raison, on devait continuer. Malgré cela, je m'attardais un instant pour m'abreuver du spectacle de cette richesse. Je repensais à toutes les fois où j'étais allé voir jouer les White Sox et à ce dimanche hors du commun où j'avais vu les Bears à Soldier Field. Les deux stades possédaient des vitrines qui renfermaient des objets de collection. J'étais peut-être devant quelque chose de similaire. les gens ordinaires qui, jadis, venaient assister dans cette enceinte à je ne sais quel jeu, pouvaient s'arrêter pour admirer les richesses du trésor, certainement protégées par la garde du roi durant le règne des Galliens et plus récemment par Anna. Je ne savais pas comment M. Boditch avait pu y avoir accès, mais ce qu'il avait emporté, avec ou sans autorisation, n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Léa se fit plus pressante, nous faisant signe d'avancer avec ses deux mains. On la suivit. Je jetai un coup d'œil en arrière en songeant que, si je sautais dans un de ces tas, je nagerais dans l'or jusqu'au cou. Et je pensais au roi Midas, qui était mort de faim, à en croire la mythologie, car tout ce qu'il touchait se transformait en or. 8. Un peu plus loin dans le couloir, je perçus des effluves qui réveillèrent le douloureux souvenir de Deep Maline, une odeur de saucisse. On arriva devant une porte à double battant ouverte. Elle donnait sur une immense cuisine, équipée d'une rangée de fours encastrés dans la brique, de trois cuisinières, de rôtissoirs et d'éviers si larges et profonds qu'on aurait pu s'y baigner. C'était là qu'on préparait à manger pour la foule qui se pressait les jours de festivité. Les portes des fours étaient ouvertes, les brûleurs à gaz éteints, et rien ne tournait sur les broches des rôtissoirs. Pourtant, l'odeur fantôme des saucisses persistait. « Je ne mangerai plus jamais jusqu'à la fin de mes jours, » pensais-je. « Et du steak non plus, peut-être. » Quatre hommes gris s'étaient réfugiés contre le mur du fond. Ils portaient des pantalons et des chemises amples, comme ceux de Percy, mais ils n'étaient pas parmi eux. En nous voyant, l'un de ces malheureux leva son tablier devant son visage pour cacher ce qu'il en restait. Les autres nous regardaient et leurs traits à moitié effacés exprimaient différents degrés de désarroi et de peur. J'entrai, repoussant d'un mouvement d'épaule la main de Léa qui tentait de m'entraîner dans le couloir. L'un après l'autre, les employés des cuisines tombèrent à genoux et plaquèrent leurs paumes sur leur front. « Non, non, levez-vous » dis-je, un peu dépité de les voir obéir si rapidement. « Je ne vous veux aucun mal. Où est Percy ?» Perceval, je sais qu'il est des vôtres. » Ils se regardèrent, puis revinrent sur moi et sur ma chienne. Ils regardèrent Ayota qui se tenait à côté de moi, imposant. Et bien évidemment, ils regardèrent la princesse de retour dans ce château qui avait été sa maison autrefois. Finalement, celui qui avait caché son visage laissa retomber son tablier et s'avança, en tremblant. Je vous épargne ces problèmes d'élocution car je le comprenais sans peine. Les soldats de la nuit sont venus le chercher et ils l'ont pris dans leurs bras. Il s'est mis à trembler et il s'est évanoui. Ils l'ont emmené. Je pense qu'il est mort, monsieur, car quand il vous touche, il vous tue. Je le savais. Néanmoins, ce n'était pas toujours vrai, sinon je serais mort depuis plusieurs semaines. « Pourquoi l'ont-ils emmené ?» Ils secouèrent la tête, mais je croyais deviner la raison. Et si, comme je le pensais, le grand intendant voulait interroger Percy, Perceval, peut-être était-il toujours en vie. Pendant ce temps, Léa avait vu quelque chose. Elle traversa la cuisine d'un bond jusqu'à l'immense plan de travail au centre. Dessus était posée une liasse de feuilles attachées par une ficelle et une plume d'oie noircie par la graisse et l'encre. Elle prit le tout et répéta ce geste d'impatience qui signifiait qu'on devait y aller. Elle avait raison, encore une fois, mais il lui faudrait d'abord consentir à faire un petit détour par les appartements que j'avais déjà visités. Je le devais à Perceval, les autres aussi, et je le devais à Kéline également. Je lui devais un chien de ma chienne, plus précisément.